direto alla source.
Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre ultime épisode de notre première saison d'Anti-Histo Amétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Nous reprenons notre thème sur la guerre de Crimée. Notre précédent épisode était donc une mise en situation de la réalité géopolitique européenne depuis la défaite de Napoléon jusqu'à donc 1853 et le début du conflit. Maintenant, servons-nous de notre mémoire afin de nous rappeler d'un de nos éléments d'introduction. On avait dit que la guerre de Crimée, guerre pourtant qualifiable de moderne, avait été en réalité engendrée par une question extrêmement ancienne. Figurez-vous que le casus belli se trouve dans la Terre Sainte des trois grandes religions monothéistes, la Palestine, et tout particulièrement les lieux saints chrétiens. Nous avions aussi dit que la Russie et l'Empire Ottoman pouvaient tous les deux se qualifier d'héritiers de l'Empire Romain d'Orient, aussi appelé Empire Byzantin. Car au cours des siècles, les Ottomans ont petit à petit occupé l'ancien territoire de ce vaste empire et ont pris pour capitale celle des Romains, Constantinople ou Byzance, devenue donc aujourd'hui Istanbul. La cité est stratégiquement placée sur le détroit du Bosphore en reliant l'Occident et l'Orient. Seulement, la Russie, quant à elle, a hérité de la religion de l'ancien empire, c'est-à-dire la religion orthodoxe. Pour rappel, la religion chrétienne s'est divisée en 1054 en deux branches. Grossièrement, on peut dire que les territoires de l'ancien empire romain d'Occident, avec en plus les pays scandinaves et les pays d'Europe centrale, la Pologne et le nord-ouest des Balkans, étaient catholiques, et que les territoires de l'empire byzantin et d'Europe de l'Est étaient orthodoxes. Nous n'allons pas insister sur les différences entre les deux, mais sachez que les orthodoxes sont guidés par un patriarche et les catholiques par un pape. En 1853, la Russie se veut comme le grand défenseur des intérêts orthodoxes, et notamment dans la question des partages des lieux saints à Jérusalem ou Bethléem. Et la question de ce partage est plus qu'épineuse, vu que les différentes religions ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde et refusent tout compromis. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la fameuse échelle inamovible du Saint-Sépulcre, placée ici par on ne sait qui, et qui est restée à sa place depuis le XVIIIe siècle en raison du fait que personne ne sait plus très bien à qui appartient l'échelle, la corniche, ni la fenêtre sur laquelle elle est posée. Sans compter le fait que les clercs, pour éviter tout conflit, respectent un statu quo, interdisant de déplacer, réorganiser ou modifier quelque chose sans le consentement des autres ordres. Bref, le lieu est une véritable poudrière. Et voilà que la France donc vient y mettre son grain de sel. La France a longtemps aimé se faire connaître sous le nom de fille aînée de l'Église. Elle a eu Saint-Louis comme roi, s'est déchirée lors des guerres de religion, et même si l'édit de Nantes instaurant la liberté de culte a été adopté, Henri IV, le protestant, a dû se convertir, non pas une fois, mais deux fois pour obtenir le trône. La Révolution a mis à mal cet héritage, et pourtant, le 19e siècle voit revenir en force l'influence de l'Église catholique en France, si bien que la Seconde République, qui renverse le roi Louis-Philippe, devient conservateur. Le poids des catholiques dans l'opinion n'est plus du tout négligeable, tellement qu'une guerre pour les satisfaire n'est plus totalement à exclure. Napoléon III, confisquant le pouvoir par la suite et prônant l'ordre, veut lui aussi s'assurer le soutien des conservateurs. On peut enfin commencer le vif du sujet. Nous sommes en 1847 à Bethléem, donc en terre ottomane. Une disparition dans la basilique de la Nativité provoque une importante querelle. En effet, les moines catholiques soupçonnent les moines orthodoxes d'avoir fait disparaître une étoile décorative dotée d'inscriptions en latin. Le latin, c'est la langue de la liturgie catholique et le grec, celle des orthodoxes. Vous l'avez compris, le statu quo est brisé. L'affaire va remonter aux oreilles des Français. Attention, accrochez-vous. le roi, Louis-Philippe, est encore au pouvoir lors du vol. Ses diplomates relaient le litige au sultan ottoman. Mais malgré le fait qu'il soit renversé et la République mise en place, le gouvernement républicain va poursuivre la procédure dans le but de s'attirer les faveurs des électeurs catholiques. Finalement, la France obtient des Turcs le rétablissement d'un texte de gestion des lieux saints largement en faveur des catholiques, le capitulaire de 1740. C'est alors que le tsar Nicolas II de Russie, pro-orthodoxe, ne cherchant qu'un prétexte pour instaurer un protectorat sur les Slaves de l'Empire ottoman et dépecer ce dernier, va rentrer dans la brèche. Après avoir vainement tenté de trouver le soutien des autres puissances européennes et surtout de l'Angleterre, à qui il proposait clairement le partage de l'Empire, Nicolas II sort du bois en 1853 en réclamant que l'Europe et le sultan lui reconnaissent au moins un protectorat sur les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman. Mais cela reviendrait à placer les Balkans, en majorité chrétiens, sous sa tutelle et le sultan, poussé par son opinion publique, s'y refuse. En 1853, la France a une nouvelle fois changé de régime et la question des lieux saints en Palestine fournissait un prétexte idéal pour une confrontation qui pourrait permettre donc de satisfaire la droite catholique désireuse de contrer l'influence orthodoxe et la gauche libérale, alors opposée au Second Empire mais aussi russophobe. Car ce régime avait, comme on l'a déjà dit, jouer de sa force militaire pour écraser les révolutions européennes. Cette russophobie est exacerbée, d'autant que l'ambassadeur français de Constantinople, Charles de la Valette, était opposé à toute négociation avec les orthodoxes sur l'administration des lieux saints et qu'il était prêt à prendre des mesures extrêmes pour faire respecter le contrôle des lieux saints par les catholiques. A partir de là, tout s'enchaîne. Le 16 mars 1853, la Russie, par le plénipotentiaire Menchikov, exige du sultan ottoman la reconnaissance des droits de ses sujets orthodoxes. Le 24 mai, Napoléon III offre au Royaume-Uni de conclure une entente destinée à soutenir l'Empire ottoman contre la Russie. Et le 2 juillet, devant le refus du sultan Abdul Majid de reconnaître le protectorat du tsar sur les orthodoxes de l'Empire ottoman, les Russes occupent les principautés moldo-valaques. Les princes de ces pays se retirent à Vienne où une conférence des puissances, comprenant l'Autriche, la France, le Royaume-Uni et la Prusse, exige l'évacuation des principautés danubiennes par les Russes et institue une commission internationale pour régler leur statut. Une flotte franco-britannique se présente à l'entrée des Dardanelles le 26 octobre. L'allié de la Russie, l'Autriche, semble donc lui montrer ses crocs à la grande surprise du tsar. L'empereur François-Joseph d'Autriche organise une rencontre avec Nicolas de Russie afin de tenter une conciliation avec le Royaume-Uni et la France. Cependant, vous connaissez déjà l'issue. Les discussions échouent et la guerre de Crimée débute le 29 septembre.
Le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comme à cette époque, le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. Entourée de blanc, le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas en mode action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours. Le câble qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords. Comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça. Se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas. Le mal est maintenant général de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin, le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé. Noir, entouré de blanc, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants. C'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, dura était mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil. À toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes. La réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier. Tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question: est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal. Comme à chaque fois avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler, j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir, l'avenir est-il un long passé?
Devant l'avancée russe et assuré du soutien du Royaume-Uni et de la France, le sultan ne peut faire moins que de déclarer la guerre au tsar. Mais les combats ne sont pas encore localisés en Crimée. Non, les premiers affrontements se font sur le Danube le 23 octobre. L'armée ottomane tente de résister, mais est grandement mise en difficulté par les Russes. Mais ce qui va définitivement mettre en péril la demeure, c'est la défaite de la flotte turque lors de la bataille navale de Sinop le 30 novembre. Les navires du sultan furent anéantis dans le port et la flotte russe prend le contrôle de la mer Noire. En réaction, les bâtiments britanniques et français bloquent le Bosphore pour protéger Istanbul. Ils passent les détroits le 4 janvier 1854. C'est la première fois depuis le couronnement d'Aléonore d'Aquitaine et Henri II Plantagenet, 700 ans plus tôt, que les deux nations s'apprêtent à combattre ensemble. Invoquant la préservation de l'Empire ottoman, les deux alliés déclarent la guerre à la Russie le 27 mars. Cependant, l'Empire d'Autriche amasse des troupes à sa frontière danubienne, menaçant grandement les arrières de l'armée du tsar qui s'enfonçait dans les Balkans. La Russie est obligée de négocier avec les Autrichiens, afin que ces derniers restent neutres. L'Autriche va accepter à la condition que le tsar retire ses troupes de Moldavie et Valachie, des provinces d'ailleurs sur lesquelles Vienne a aussi dévisé. Et voilà donc que les Russes se replient en Crimée. Les Français et Anglais débarquent à Eupatoria, dans la presqu'île de Crimée, le 14 septembre 1854. Leur objectif est la puissante base navale de Sébastopol. En la détruisant, les alliés veulent ainsi assurer la sécurité de Constantinople. Les Russes n'ont pour la défendre que 40 000 hommes postés sur les hauteurs qui dominent le fleuve Alma. Une première bataille a donc lieu afin d'assurer un siège en règle. Les zouaves de l'armée française s'illustrent après avoir surpris les Russes à la suite d'une escalade. Le siège de Sébastopol commence dès lors la semaine suivante. Si l'entente franco-anglaise est cordiale, elle reste cependant incomplète avec notamment un commandement distinct. Résultat, les armées s'enlisent et subissent de violentes épidémies, notamment de choléra et un rude hiver faisant de lourdes pertes. Le tout aggravé par l'impréparation totale du conflit et des services de ravitaillement et de soins en dessous de tout. La citadelle est remarquablement défendue. Les Russes improvisent un système de fortification en terre qui peut être facilement réparé à l'appel. Par ailleurs, leurs défenses sont assurées par 3000 canons récupérés sur les navires de la flotte, lesquels ont été coulés à l'entrée de la baie afin d'en interdire l'accès. En janvier 1855, alors que les hostilités ont déjà débuté, le royaume de Piémont-Sardaigne se joint à l'alliance franco-britannique, dans l'espoir d'être plus tard assisté dans ses projets de guerre contre l'Autriche afin d'unifier l'Italie. L'armée des assiégeants, comptant 185 000 soldats, doit dorénavant mener une éprouvante guerre de tranchées. Ils arrivent néanmoins à briser deux tentatives russes de briser l'encerclement. À Balaclava le 25 octobre 1854 et Inkermann le 5 novembre 1854. Finalement, les zouaves du général de MacMahon s'emparent du fort de Malenkov qui domine la citadelle de Sébastopol. Cette chute décide du sort de Sébastopol. Les Russes se retirent de la citadelle deux jours plus tard, après l'avoir proprement incendiée. En 11 mois, le siège a coûté plus de 120 000 hommes aux alliés, 20 000 britanniques et 95 000 français, dont les trois quarts emportés par la maladie et le froid. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Même si les opinions publiques des différents pays de l'Alliance fêtent la victoire de Sébastopol comme le retour de la paix, les Russes organisèrent une offensive dans les Balkans pour 1856. Même si les annonces de la poursuite du conflit étaient essentiellement destinées à saper la cohésion des alliés entre des Français désireux de mettre un terme au combat après la victoire de Sébastopol et des Britanniques voulant affaiblir la puissance russe au-delà de la Crimée, notamment d'ailleurs en Baltique. Les états sanitaires des soldats français étaient en plus catastrophiques, mais les Russes savent que la partie est perdue et ne souhaitent pas non plus un plus long conflit. Souhaitant en revanche des négociations de paix favorables, ces derniers accrurent la pression dans le Caucase afin d'obtenir une victoire sur les Ottomans. C'est ainsi qu'ils prirent la forteresse ottomane de Kars, ouvrant la voie vers l'Anatolie. Le tsar ouvrit des négociations de paix avec la France et l'Autriche. Mais les Anglais continuaient de défendre une prolongation de la guerre pour réduire la puissance russe. Une expédition anglo-française s'empara ainsi des fortifications russes de la péninsule de Kimboum. Les Français qui avaient fourni la plus grande part de l'effort militaire étaient épuisés, et Napoléon III, soutenu par l'Autriche, présenta des propositions de paix, mais le tsar les rejeta en avançant que l'agitation sociale provoquée en France par la suite de la guerre pousserait les alliés à être plus conciliants. L'entrée de la Suède dans le camp des alliés le 21 novembre ne le fit pas changer d'avis, de même que les avertissements de son oncle, le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse. Il céda finalement le 16 janvier 1856 après que l'Autriche eut menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Russie s'il refusait de s'asseoir à la table des négociations. Le traité de Paris, le 30 mars 1856, hisse Napoléon III au pinacle, 4 ans à peine après son avènement. Le bonheur de l'empereur est à son comble avec la naissance de son fils Eugène-Louis Napoléon, le 16 mars 1856, pendant le congrès. L'influence française sort renforcée en Orient. Mais la Russie, humiliée, prend conscience de sa faiblesse et reproche durablement à son ex-allié autrichien de ne pas l'avoir soutenu. Le nouveau tsar, Alexandre II, entreprend de vastes réformes. Quant à l'Angleterre, déçue par son alliance avec la France, après 7 siècles de conflits quasi ininterrompus, elle se retire dans un splendide isolement, jusqu'à la fin du siècle. Après 4 décennies de paix et de prospérité sans nuages en Europe, voilà que se mettent en place les ingrédients des drames futurs. Lors de la conférence, pour la première fois, la question des nationalités est mise sur la table avec la question du Piémont et de l'unité italienne. D'ailleurs, la France et le Piémont vont continuer sur leur lancée avec la guerre contre l'Autriche et les victoires en 1859 de Magenta puis de Solferino, mettant l'Italie sur la voie de l'unité et offrant à la France Nice et la Savoie. Ensuite, les principautés de Valachie et Moldavie deviennent autonomes bien que sous contrôle ottoman. C'est le début d'indépendance des peuples slaves du Sud. Par la suite, les Balkans vont petit à petit devenir indépendants, notamment après une énième guerre russo-turque se concluant par la victoire des Slaves. Par la suite, la région deviendra totalement instable, subissant plusieurs guerres balkaniques, lui valant le surnom de Poudrière. Poudrière qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Et voilà, c'est terminé pour cet ultime épisode de notre première saison. Si vous souhaitez me faire un retour sur l'émission, n'hésitez pas à me contacter à martin@radiovassivière.com, martin@radiovassivière.com. De même, si vous possédez des recherches, des bouquins ou des infos sur l'histoire locale, n'hésitez pas à me les partager et je me ferai un plaisir d'en faire un ou plusieurs épisodes. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de l'émission sur radiovassivière.com. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et vos retours, et je suis très content d'avoir mené à bien ce projet qui me tenait vraiment à cœur. On se retrouve, je l'espère, en septembre pour une nouvelle saison, sur le 88.6 et 92.3. Ciao!
Ah, mais trop.